Enfin, éclatait la terrifiante vérité. Éperdue d'horreur, les cheveux droits sur la tête, secouée d'un tremblement convulsif, Mademoiselle de la Villaudrie essayait de mesurer les profondeurs de l'abîme où elle venait d'être précipitée. D'elle-même, et avec la simplicité d'un enfant, elle avait donné dans le piège immonde qu'on lui tendait. Mais qui donc à sa place se fût défié? Qui donc eût soupçonné ou seulement conçu l'idée d'une si monstrueuse scélératesse? Ah, elle ne comprenait que trop à cette heure, croyait-elle, toutes les manœuvres si peu explicables de M. de Brévent. Elle ne pénétrait que trop le sens profond de ses perfides calculs, quand il lui recommandait avec de si vives instances de n'emporter de la maison paternelle ni ses bijoux, ni aucun objet représentant une certaine valeur. C'est que, si elle eut ses bijoux, elle se fût trouvée une petite fortune entre les mains, elle eût été indépendante et à l'abri du besoin pour une couple d'années. Et M. de Brévent voulait qu'elle ne possédât rien. Il savait, le lâche, de quels écrasants mépris elle repousserait ses premiers mots, et il se flattait de cet abominable espoir que l'isolement, la peur, la misère la mettraient à sa discrétion et la lui livreraient. « C'est horrible !» répétait la jeune fille. « C'est horrible !» Et cet homme avait été l'ami de Daniel, et c'est à cet homme que Daniel, au moment de s'embarquer, avait confié sa fiancée. Quelle atroce dérision! Sir Thomas Elgin était certes un redoutable bandit, sans foi ni scrupule, mais on le connaissait, lui. On le savait capable de tout, et on se tenait sur ses gardes. Tandis que l'autre, ah, mille fois plus abject qu'il était et plus vil, lui qui depuis une année épiait d'un visage riant l'heure de la trahison, lui qui avait préparé son crime sous le voile de la plus noble amitié. Quant au but final que poursuivait le traître, Mademoiselle Henriette croyait le discerner très nettement. En faisant d'elle sa maîtresse, car c'était par là qu'il prétendait commencer, il espérait s'assurer une portion de l'immense fortune du comte de la Villaudrie. Et de là, pensait Mademoiselle Henriette, venait la haine dont Sir Tom et M. de Brévent lui avaient paru animés l'un contre l'autre. Il y avait eu entre eux, jugeait-elle, rivalité de convoitise honteuse, chacun de tremblant que l'autre ne s'emparât de l'argent qu'il convoitait. Car le soupçon d'une connivence de la comtesse Sarah et de M. de Brévent ne pouvait venir à Mademoiselle Henriette. Elle les estimait ennemis, au contraire, et séparés par des intérêts absolument différents. « Ah, n'importe, murmura-t-elle, un sentiment au moins leur est commun, la haine qu'ils me portent. » Quelques mois plus tôt, une si effroyable catastrophe et si soudaine eût certainement écrasé Mademoiselle de la Villaudrie. Mais sous tant de chocs réitérés depuis un an, elle s'était émoussée. Car c'est un fait que l'âme humaine s'endurcit à la douleur comme le corps à la fatigue. C'est qu'aussi, pour soutenir son courage, se balançait comme une lueur au-dessus des ténèbres de l'avenir le souvenir de Daniel. Si elle avait douté de lui à un moment, sa foi était revenue, intacte. Sa raison lui disait que si, véritablement, il eût adoré la comtesse Sarah, ses ennemis, Sir Thomas Elgin et M. de Brévent, n'eussent pas pris tant de peine pour le lui persuader. Elle pensait donc, elle était donc sûre qu'il lui reviendrait le cœur plein d'elle comme à son départ. Et grand Dieu, quels ne seraient pas les transports de douleur et de rage de cet homme si loyal, en apprenant combien lâchement et misérablement il avait été trahi par la femme qu'il appelait son amie. Il saurait, lui, réhabiliter Mademoiselle de la Villaudrie et la venger. « Et je l'attendrai, » se disait-elle, les dents convulsivement serrées. « Je l'attendrai. » Comment ? Elle ne se le demandait pas. Car elle n'en était encore qu'à cet enthousiasme du premier moment, qui inspire les résolutions héroïques, mais qui dissimule les obstacles à surmonter. Les premières difficultés de la situation lui furent exposées par la Chauvassa, laquelle, à 6 heures précises, lui monta à dîner selon leur convention des jours précédents. L'estimable portière s'était composée une physionomie si dolente qu'on eût juré qu'elle avait les larmes aux yeux. « Eh bien, ma belle demoiselle, » interrogea-t-elle de sa voix la plus mielleuse, « vous avez donc eu une querelle ce tantôt avec ce cher monsieur Maxime ?» Persuadée du danger ou à tout le moins de l'inutilité d'une explication, Mademoiselle Henriette répondit simplement « Oui, madame. » « Je m'en suis doutée, » reprit la portière, « rien qu'en le voyant descendre de chez vous avec une mine longue comme mon bras. C'est qu'il vous aime, oui, ce beau jeune homme. » Et vous pouvez me croire quand je vous l'ai dit, car je m'y connais. » Et elle attendit une réponse, son éloquence produisant toujours un grand effet sur ses locataires. Mais cette réponse ne venant pas, « Il faut espérer, ajouta-t-elle, que cette petite brouille se raccommodera. » Non. À voir la Chauvassa, on devait la croire absolument interloquée. « Comme vous êtes sévère, exclama-t-elle. Enfin, cela vous regarde. Seulement, je me demande comment vous allez vous arranger. Pourquoi faire ? Dame, pour vivre ? Je trouverai toujours le moyen, madame, rassurez-vous. » En personne d'expérience, et qui n'ignore pas ce que représente souvent ce mot cruel, vivre pour les pauvres filles abandonnées, La portière hocha gravement la tête. « Tant mieux, » répondit-elle, « tant mieux. Seulement, je ne vous vois que des dettes sur le dos. »«
Des dettes ?»«
Mais oui, les meubles qui sont ici sont encore dus au tapissier. »« Comment les meubles ?»«
Naturellement. Monsieur Maxime devait les payer, il me l'avait dit. Mais du moment où vous êtes brouillé, cela se comprend, n'est-ce pas ?»
C'était à douter d'une si basse infamie. « N'importe. Mademoiselle Henriette fit bonne contenance.
« Pour combien donc il y a-t-il de meubles ici ?» interrogea-t-elle.
« Je ne sais, pour 500 ou 600 francs peut-être. Tout est si cher. »
En tout, il y en avait bien pour 150 ou 200 francs.
« Eh bien, je les paierai, » déclara Mademoiselle Henriette. « Le tapissier m'accordera bien 48 heures de délai. »«
Oh, certainement. »
Persuadée que cette doucereuse mégère était chargée par Monsieur de Brévent de l'espionner, la pauvre jeune fille affectait l'air le plus calme. Et même, ayant fini le dîner, elle voulut absolument payer sur le champ une 50aine de francs qu'elle devait pour ses repas depuis 4 jours et pour quelques emplettes. Mais dès que la portière se fut retirée, la pauvre fille s'affaissa sur une chaise, murmurant « Je suis perdue !» Quelle ressource en effet lui restait, quelle partie prendre ? Retourner chez son père, implorer la pitié de la comtesse Sarah ? Ah, la mort lui eût paru douce, comparée à une telle humiliation. Et d'ailleurs, n'eût-ce pas été pour éviter Maxime, courir se livrer à Sir Tom ? Demanderait-elle du secours à quelqu'un des anciens amis de sa famille ? Mais à qui ? Plus en détresse que le naufragé dont l'œil interroge l'horizon vide, elle cherchait à qui s'adresser. En proie à la plus douloureuse angoisse, elle égrenait dans sa mémoire le nom de tous les gens qu'elle avait connus. Elle ne connaissait autant dire personne, hélas. Depuis que sa mère était morte et qu'elle vivait seule, qui donc se souvenait d'elle, sinon pour la calomnier ? Ses seuls amis, les seuls qui eussent pris sa cause en main, le duc et la duchesse de Chandos étaient en Italie, elle s'en était assurée. « Je n'ai donc à compter que sur moi seule, » répétait-elle. « Sur moi seule. » Puis, se redressant, « N'importe, » répétait-elle, le cœur gonflé de révolte, « je me sauverai. » En somme, de quoi dépendait son salut ? De la possibilité de vivre jusqu'à sa majorité ou jusqu'au retour de Daniel. « Est-ce donc si difficile de vivre, » pensait-elle ? « Les filles des pauvres gens, tout aussi abandonnées que je le suis, vivent bien, elles. Pourquoi ne vivrais-je pas, moi ? Pourquoi ? Parce que les filles des pauvres ont fui dès le berceau, pour ainsi dire, le rude apprentissage de la misère. Parce qu'elles ne s'effraient pas d'un jour sans travail ou d'un jour sans pain. Parce que l'expérience cruelle les a armées pour la lutte. Parce qu'elles connaissent la vie, enfin, et leur pari, que leur industrie s'est affûtée au mal de la nécessité, qu'elles ont l'arinée de tirer parti de tout, qu'elles sont fines, adroites, entreprenantes, hardies. Tandis que Mademoiselle de la Villaudrie, élevée comme en serre chaude, selon les stupides préjugés de sa condition, ne savait rien de la vie, de ses poignantes réalités, de ses combats, de ses misères. Elle n'avait pour elle que son courage. « Cela suffit, » se disait-elle, « ce qu'on veut, on le peut. » Ainsi résolue à ne plus même songer à un secours étranger, elle se mit à étudier sa situation et à inventorier ses richesses. En fait de choses ayant une valeur certaine, elle possédait le cachemire dont elle s'était enveloppée pour fuir, le nécessaire de toilette en or contenu dans le sac de voyage de sa mère, une broche, sa montre, une paire d'assez jolies boucles d'oreilles, et enfin 2 bagues, que par un hasard heureux, elle n'avait pas retirées de son doigt le soir de son évasion, et dont une était à un assez grand prix. Tout cela, d'après son estimation, devait avoir coûté 8 ou 9 000 francs au moins. Combien le vendrait-elle, puisqu'elle était résolue à le vendre ? Pour elle, tout l'avenir était là. Mais comment se défaire de ces objets ? Il lui tardait d'en finir, elle avait hâte d'être délivrée du tourment de la certitude. Elle était pressée de payer les quelques méchants meubles qui garnissaient sa chambre. À qui s'adresser ? Pour rien au monde, elle ne se fut confiée à la Chevassa, son instinct lui disant que laisser voir sa détresse à cette douceâtre mégère, ce serait se livrer à elle, pieds et poings liés. Elle cherchait quand l'idée du monde de piété traversa son esprit. Elle n'en avait ouï parler que très vaguement, assez cependant pour savoir que c'est une institution d'ordre public qui prête de l'argent aux gens gênés contre le dépôt d'un lotissement. « C'est là que je dois aller, » se dit Mademoiselle Henriette. « Seulement, où prendre un bureau de mont-de-piété ? Baste, je trouverai toujours, » se dit-elle. Et elle descendit, au grand étonnement de la portière, qui lui demanda où elle allait si pressée. Ayant pris la première rue, elle s'en allait au hasard, marchant très vite, sans souci des passants qui la coudoyaient, uniquement préoccupée d'examiner les maisons et les enseignes. Et c'est en vain que, durant plus d'une heure, elle erra à travers ce lacis de petites rues qui s'enchevêtrent entre le faubourg Montmartre et la rue Lafitte. Elle ne trouva pas et la nuit tombée. « Et cependant, je ne rentrerai pas les mains vides !» se disait-elle avec colère. C'est pourquoi, rassemblant toute son audace, elle s'approcha d'un sergent de ville et, plus rouge qu'une pivoine et toute confuse, « Seriez-vous assez bon, monsieur, » dit-elle, « pour m'indiquer un bureau du Mont-de-Piété ?
D'un air de commisération, l'agent regarda cette jeune fille dont toute la personne exhalait un parfum de distinction et de candeur, se demandant peut-être quelle misère la réduisait à cette ruineuse ressource. Enfin, avec un soupir, « Là, madame, répondit-il en lisant dans la main, au coin de la rue du Faubourg Montmartre, vous trouverez un bureau de prêt direct. » Prêt direct. Ces deux mots ne représentaient rien à l'esprit de mademoiselle Henriette, n'importe. Elle reprit sa course en un pied fiévreux, reconnut la maison indiquée, entra, monta, et poussant une porte, se trouva dans une grande pièce sombre où une vingtaine de personnes attendaient debout. À droite de la salle, trois ou quatre employés, séparés du public par une balustrade à hauteur d'appui, écrivaient, demandant le nom des dépositaires et comptant de l'argent. Tout au fond, dans l'ombre, un large guichet s'ouvrait où un autre employé apparaissait par moments pour prendre les objets qu'on remettait en dépôt. Après 5 minutes d'observation sans avoir interrogé personne, mademoiselle Henriette avait compris le mécanisme de l'institution. Plus tremblante que si elle eût été pour commettre un crime, elle s'avança vers le guichet du fond et déposa une de ses bagues la plus belle sur le rebord. Puis elle attendit, baissant la tête, car il lui semblait que tout le monde avait les yeux sur elle. « Une bague en diamant !» cria l'employé. « 900 francs, à qui ?» L'énormité de la somme fit dresser toutes les têtes. Et une grosse femme, trop bien mise, à l'œil impudent, dit « Matin, elle se met bien, la petite !» Cramoisie de honte, mademoiselle Henriette s'était avancée. « La bague est à moi, monsieur, murmura-t-elle. » L'employé la considéra, puis doucement. « Vous avez des papiers ? » interrogea-t-il. « Des papiers, lesquels ? C'est qu'il faut, pour justifier votre identité, un passeport, une quittance de loyer, un billet. » Dans la salle, on riait de l'ignorance de cette naïve. « Je n'ai rien de tout cela, monsieur, balbutia-t-elle. Alors on ne peut vous prêter. » Encore un espoir, le dernier qui lui échappait. Elle tendit la main en disant « Rendez-moi donc ma bague, monsieur !» Mais l'employé se mit à rire. « Ah mais non, ma petite mère, fit-il, cela ne se peut pas. On vous la rendra quand vous viendrez avec des papiers ou accompagné de deux commerçants patentés. Cependant, monsieur, c'est comme cela. » Et trouvant que l'incident avait assez duré, il poursuivit. « Un manteau de velours, 30 francs, à qui ?» Déjà, mademoiselle de la Villaudrie fuyait à travers les escaliers, poursuivie, lui semblait-il, par les huées de la foule. Comme cet employé l'avait toisé, la prenait-on donc pour une voleuse ? Et qu'allait-il advenir de cette bague ? La police chercherait, arriverait jusqu'à elle, et elle serait reconduite à l'hôtel de la Villaudrie, chez son père, et livrée à Sir Tom. C'est à peine si elle se soutenait quand elle arriva rue dans la grange batelière. Et là, l'étourdissement, l'émotion, l'épouvante lui faisant oublier ses résolutions, elle avoua à la Chauvassa son inutile tentative. Plus grave qu'un homme d'affaires consulté par un client qui s'est imprudemment fourré dans un guépier, l'honnête concierge écoutait sa locataire. « Pauvre chatte, murmurait-elle d'une voix où on eût dit que roulaient des larmes. Pauvre chatte innocente !» Mais si elle réussissait à donner à sa figure ingrate l'expression d'une pitié sincère, l'éclat de son œil dur trahissait l'immense satisfaction qu'elle ressentait de voir mademoiselle Henriette à ses pieds. « Enfin, vous avez encore eu de la chance dans votre malheur, lui déclara-t-elle, car vous avez été terriblement imprudente. » Et comme la pauvre fille s'étonnait un peu, « Oui, poursuivit-elle, vous risquez gros, et ce n'est pas malin à prouver. Qui êtes-vous ? Bon, ce n'est pas la peine de pâlir, je ne vous le demande pas. Mais enfin, en portant vous-même un bijou au clou, » elle appelait ainsi le mot de piété, « vous alliez, comme on dit, vous jeter dans la gueule du loup. Si on vous avait arrêté quand on a vu que vous n'aviez pas de papier, si on vous avait conduite chez monsieur le commissaire, ah, il n'y a pas à chanter, mon bel ami, vous étiez prise. » Et tout aussitôt, changeant de ton, elle se mit à reprocher à sa jolie demoiselle de lui avoir dissimulé sa détresse. Ça, c'était mal et ça lui faisait bien de la peine. Pourquoi lui avoir donné de l'argent la veille ? Est-ce qu'elle en demandait ? Avait-elle donc l'air d'une créancière si terrible ? Elle savait, Dieu merci, ce que c'est que la vie de ce monde et qu'il faut s'entraider. Il y avait bien, il est vrai, ce gredin de marchand de meubles à payer, mais elle se serait volontiers chargée de le faire patienter. Tiens, pourquoi donc pas ? Elle en avait, sans se vanter, fait attendre d'autres. Et rien que la semaine passée, elle vous avait bel et bien envoyé promener un tapissier et une marchande à la toilette qui voulait saisir les malhonnêtes, une de ses locataires du fond de la cour, la plus gentille précisément, et la plus distinguée et la meilleure de toutes. Elle discourait. Elle discourait avec une vertigineuse loquacité, jusqu'à ce qu'enfin, pensant avoir donné assez à réfléchir à sa petite chatte, et suffisamment préparé le terrain. « Mais on voit bien que vous n'êtes qu'une enfant, ma chère demoiselle, » poursuivit-elle. « Vendre vos pauvres petits bijoux, n'est-ce pas un meurtre quand il est quelqu'un qui serait si aisé de vous rendre service ?» À cette attaque directe, mais non absolument imprévue, mademoiselle Henriette tressaillit. « Car bien sûr, » continuait l'autre, « rien que pour vous être agréable, il donnerait un de ses bras, ce pauvre monsieur Maxime. »
si impérieux fut le geste de mademoiselle Henriette que la digne concierge parut tout interloquée. « Je vous défends !» s'écria la jeune fille d'une voix tremblante de colère. « Je vous défends absolument de prononcer devant moi ce nom !» L'autre haussa les épaules. « Comme vous voudrez, » fit-elle, et prompte à changer de conversation. « Pour l'heure, » reprit-elle, « revenons à votre bague restée en plan. Qu'est-ce que vous allez en faire ?»« C'est parce que je ne sais que faire, madame, » répondit mademoiselle Henriette, « que je me suis adressée à vous. » La chevassa sourit agréablement. « Eh bien, vous avez fait, » approuva-t-elle, « car Dieu merci, on ne me prend pas souvent à court. Chevassa va se rendre au clou avec le charbonnier et le marchand de vin d'à côté, et avant de vous coucher, vous aurez votre argent, c'est moi qui vous le garantis. C'est qu'il s'entend un peu à faire marcher les employés, Chevassa. » Le soir même, en effet, le concierge lui-même daigna monter à mademoiselle Henriette 895 francs. S'il n'apportait pas intact les 900 francs prêtés par le Mont-de-Piété, c'est qu'ayant dérangé deux voisins patentés, il avait dû, selon l'usage, les inviter à prendre quelque chose. Car pour lui, il n'avait rien gardé, oh, rien de rien. Il en pouvait faire le serment, préférant bien s'en remettre à la générosité de mademoiselle. « Voici 10 francs, lui dit brusquement mademoiselle Henriette pour couper court à son insupportable bavardage. Enfin, avec les quelques louis qui restaient au fond de sa bourse, c'était un capital de 1000 francs que la pauvre fille avait devant elle. Combien de jours, combien de mois d'existence et de sécurité ne lui eût pas représenté cette somme sans ce tapissier dont il fallait indispensablement régler la facture? Il ne manqua pas de venir la présenter le lendemain, conduit par la portière. Il réclamait 549 francs. 549 francs pour les quelques meubles de rebut qui garnissaient ce misérable logis. Le vol était flagrant et d'une impudence si inouïe que mademoiselle Henriette en demeura interdite, et cependant elle paya. Restée seule, elle faisait tristement sauter dans le creux de sa main les 23 louis qui lui restaient, quand une aspiration traversa son esprit qui l'eût sauvée si elle l'eût suivi. La pensée lui vint de quitter furtivement cette maison, de se faire conduire au chemin de fer d'Orléans et de prendre le premier train pour les Rosiers où demeurait la tante de Daniel. Hélas, elle se contenta d'écrire au rosier et resta.